Des vies françaises à présent, ce matin, deuxième épisode de notre rencontre avec Magali Panova. Elle est issue d'une famille en grande difficulté sociale. Magali a été placée en foyer de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 11 ans, déscolarisée pendant toute la durée de son placement. Eh bien, elle intervient aujourd'hui dans la formation des professionnels de la protection de l'enfance pour tenter d'améliorer la prise en charge des enfants placés. C'est un portrait sonore signé Charlotte Perry.
J'adorais aller à l'école, hein. Et j'avais l'impression d'être dans mon élément. Et puis les élèves, je faisais abstraction.
Vous voulez un petit café, quelque chose ?
Si je reste du café, je veux bien, ouais.
J'ai eu de la chance, il y avait toujours beaucoup d'arbres, beaucoup de choses à regarder dans les écoles que j'ai fréquentées. Du coup, j'ai développé un certain goût pour la botanique.
Super, merci.
Ah, donc vous vouliez savoir le fameux épisode de l'annonce du placement.
Donc là, vous aviez 10 ans. C'était juste avant l'entrée en 6e.
Au collège, ouais, 11 ans plutôt.
Donc avec ma mère, on parlait pas beaucoup du coup. Hein. C'était vraiment très informatif, très logistique, les échanges. Et un jour, très logistique, elle me dit « Habille-toi, on sort ». Je m'exécute, je ne sais pas où on va, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et je vois qu'elle est à la bourre parce qu'elle s'agace et on descend la rue au pas de course. Donc déjà, d'entrée de jeu, c'est que c'est un rendez-vous. On va vraiment en bas de la rue et à l'époque, il y avait une énorme barre de béton. Et le bas de ces bâtiments, c'était occupé par des bureaux à l'époque. Et on se dirige vers une porte où c'est marqué « Assistante sociale ». On entre. Et là, devant nous, il y a une femme qui salue ma mère et en fait, la façon dont elle salue ma mère, je vois bien qu'en fait, c'est pas la première fois qu'elle se voit. La dame dit « Ah, bonjour Madame Batte, alors, comment ça va? Vous avez eu le temps d'en discuter? On fait comme on a dit, on y va ?» Et ma mère dit « Ouais, c'est bon, oui, tout est bon, on fait comme on a dit, c'est parti. » Et elle fait s'asseoir ma mère, après elle se tourne vers moi, elle me fait « Bonjour Magali, assieds-toi, alors, vous avez eu le temps d'en parler? T'es d'accord pour aller en foyer? C'est bien, ça va vous faire du bien toutes les deux. » Alors là, je prends ça, mais j'ai l'impression de prendre une volée du percut dans l'estomac. Je réalise, en l'espace, mais d'une microseconde, qu'on me jette dehors et que j'ai pas mon mot à dire. Parce que si j'avais mon mot à dire, on en aurait parlé avant. Et que clairement, si ma mère m'en a pas parlé, c'est qu'il y a aucun recours possible. Et je regarde la dame et je souris, je fais « Oui, c'est bon, on y va. »
L'assistante sociale, vous l'aviez jamais vue, vous ?
Je l'avais jamais vue. J'étais qu'une potiche, quoi, une poupée. Je n'avais aucun ressenti supposé. Et donc, en tant que telle, évidemment, pourquoi m'expliquer des choses? Puisque je n'étais qu'une potiche. Parce qu'après, on passe devant le juge aussi. Donc, on a en plus l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Enfin, c'est affreux comme truc. On a beau appeler ça juge des enfants. Je veux dire, quand on est enfant et qu'on entend « tu passes devant le juge », on a quand même un peu l'impression d'avoir merdé, quoi. D'avoir fait une bêtise XXL et que du coup, on nous envoie en prison. On nous punit quand même. Enfin, c'est d'une violence. Mais en fait, moi, j'étais pas là, quoi. Les trucs se passaient, mais c'était pas moi qui étais là, quoi. Je me souviens juste vaguement que, voilà, le placement était prononcé pour un an. Et qu'on aviserait dans un an. Mais au bout d'un an, on a fait que repousser d'un an. Et puis encore d'un an. Et puis voilà.
Le premier foyer où vous êtes arrivé, c'était où ?
À Nancy, en plus. Dans une ville que je connaissais pas du tout. À 50 km de chez ma mère. Et c'était affreux, en fait, parce que... Vu que les seules choses avec lesquelles j'avais un attachement quelconque, c'était les lieux. J'allais à l'école, c'était toujours le même trajet. Il y avait toujours ma aide aubépine sur le côté gauche quand j'y allais, sur le côté droit quand je revenais. Les cerisiers dans l'école. Enfin... Tout était à sa place. Et donc, en fait, me déplacer, c'était complètement catastrophique. Parce qu'il m'a fallu un temps inouï pour ne serait-ce qu'apprivoiser ma chambre, sortir de ma chambre, faire le tour du foyer, puis alors sortir en ville, c'était juste pas possible, quoi. Tout ça, ça me prenait un temps... C'était hyper long. Il comprenait pas, parce que du coup, déscolarisation, j'étais pas capable de sortir du foyer.
Vous avez été déscolarisée ?
Bah oui. Jusqu'à mes 17 ans. Ouais. Il y a eu des tentatives qui ont été faites, mais ça, à chaque fois, ça a échoué parce que on m'a mis dans un bahut, dans une ville à côté, où il y avait trois quarts d'heure de bus, deux correspondances. C'était ingérable. Donc j'y suis allée deux fois. Je me suis perdue deux fois. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Je suis rentrée à des heures pas possibles parce qu'en plus, je n'osais pas demander mon chemin. Les éducs, ils ont fait non, mais c'est pas la peine, on va pas continuer comme ça, on va la perdre pour de vrai, quoi. Donc ils ont dit non, bah, elle va rester dans sa chambre, c'est très bien.
Mais l'école, c'est obligatoire, on peut pas.
On est d'accord. Ouais. Oui, ils auraient dû à ce compte-là soit m'inscrire au CNED, soit faire en sorte que j'ai des cours à domicile. Bah non, j'ai pas fait de collège. J'ai pas fait de lycée.
Mais vous faisiez quoi toute la journée au foyer ?
Bah j'apprenais plein de choses, je lisais beaucoup. Je passais beaucoup de temps à la médiathèque, à lire des bouquins notamment, surtout n'importe quoi. En fonction de la passion du moment. Alors ça a été un moment sur l'océanographie, sur les animaux, ça pouvait être sur les civilisations, tout ça. Enfin,
mais je vous êtes instruite vous-même, quoi.
Ouais. Enfin, il y a plein de choses que j'ai pas appris, forcément.
Et personne s'est posé de questions sur cette déscolarisation, parce que ça, c'est quand même...
Bah non, bah le truc c'est qu'il n'y a pas de contrôle dans les foyers quand même. Techniquement, je veux dire, il n'y a pas vraiment de suivi des enfants, quoi. Puis les éducateurs au foyer, bah, entre la logistique du quotidien à gérer, les enfants à gérer, on s'occupe de ceux qui sont les plus bruyants, les plus accaparants, parce qu'il faut parer à l'urgence. Et du coup, ça laisse pas beaucoup de temps pour ceux qui savent parfaitement passer inaperçus.
Mais tout ça, ça n'a jamais été verbalisé, en fait.
C'était pas dans mon fonctionnement, je ne savais pas faire différemment. Dans la famille, c'est comme ça qu'on réagissait. On parlait peu. Donc en fait, même les silences n'en étaient pas. Et moi, j'avais grandi dans ce truc-là. Donc en fait, moi, je n'avais pas l'impression d'être si taiseuse ou d'être si renfermée que ça. Puisque pour moi, les silences étaient une quantité d'informations. J'avais pas l'impression de devoir parler pour que ce soit compréhensible, sauf que je savais pas que les autres, ils fonctionnaient pas comme ça. Je gardais volontairement une distance assez large entre les éducateurs et moi-même. Pour moi, c'était des adultes, donc c'était des dangers potentiels. Je savais qu'il fallait pas se cacher. Il y a rien de plus suspect que quelqu'un qui se cache. Ça attire l'attention. Et donc, ça attire aussi des problèmes. Il faut juste avoir l'air de ne pas s'intéresser aux autres. Et j'étais très douée pour ça. Donc dès qu'ils abordaient un sujet qui n'était pas d'un ordre logistique ou de la pure politesse, je tournais tout simplement les talons et je partais.
Vous n'avez tissé aucun lien avec aucun éduc sur toutes ces années de foyer ?
Non, après, il y a eu une éducatrice, mais bah voilà, quoi, c'est le problème aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des éléments dans mon dossier qui n'ont pas favorisé non plus l'accroche de certaines choses. Il y a une éducatrice de qui je me sentais, avec laquelle je me sentais bien. Et une fois, elle s'appelait Hélène. On s'est retrouvés à faire de la couture ensemble. Et je me suis approchée d'elle. Alors peut-être de façon un peu vive, je sais plus. Hein. Et je l'ai vue avoir un mouvement de recul comme si elle avait eu peur. Et quand j'ai compris qu'elle avait eu peur, j'ai pas insisté, en fait. C'était la première et la dernière fois qu'on a eu une activité ensemble, parce que je me sentais pas de m'imposer auprès de quelqu'un si elle me ressentait comme un danger.
Vous savez pourquoi elle vous a ressenti comme un danger ?
Si elle a lu mon dossier, en fait, je pense que ça tient à ce que ma mère avait expliqué de moi à l'assistante sociale, et qui donc s'était retrouvée dans mon dossier, qu'ils avaient dû lire, quoi. C'est-à-dire que c'était moi la personne violente dans la maison, que je la maltraitais. Donc, Hélène, qui était très très douce et qui était... c'était une brindille, c'était quelqu'un de très gracile. Effectivement, si j'avais été violente, elle aurait volé en éclats. Mais jamais de la vie, j'aurais levé un souffle sur elle, quoi. Donc ça m'a... Ouais. Ça m'a fait mal. Parce que pour une fois que je pouvais potentiellement m'attacher à quelqu'un, le message qu'on m'envoyait, c'est « t'es un monstre, en fait, et tu dois pas ». C'est pas de sa faute, hein, je la comprends, mais... Mais ça m'a fait mal.
avec de longs soupirs, des vies françaises. Portrait sonore signé Charlotte Perry et mis en onde par Céline Hillard.